vous propose de prendre des casques. Il y en a quatre derrière, il y en a devant, vous prenez celui que vous voulez. Le sens n'a pas de grande importance pour ce que je vais faire. Il y a un left-right normalement d'indiquer dessus, mais c'est pas très grave. Thank you. de cela. Pour se remettre dans l'écoute. Le dispositif que j'ai utilisé, c'est un micro, tout simple. Le premier son que vous avez entendu était absolument sans traitement. Ce qu'on entendait, c'était vraiment le mouvement de la bille sur la grille du micro. Et puis l'aiguille le long du col de cygne du micro. Et après, j'ai fait rentrer. Il y avait également ensuite un CD sur lequel j'ai des sons qui sont ralentis 32 fois. En fait. C'est un travail sur lequel. C'est un travail que je développe depuis un petit peu plus d'un an. Vous savez, à l'époque du magnétophone à bande, on pouvait faire des ralentissements extrêmes. Vous savez, quand vous ralentissez un son, vous le transposez dans le grave. Ça, c'est très facile à faire avec un magnétophone à bande. On le faisait beaucoup à une époque, sauf qu'on était limité par la bande passante des magnétophones à bande, qui ne montait pas très haut, ils ne montaient même pas à 20 000. Enfin, les très bons magnétos montaient à 20 000, mais pas au-delà. Et le problème qu'on a eu quand on est passé au numérique, vous savez que le numérique découpe les sons. Un des standards qu'on utilise, c'est le 44.1 ou 48 kHz. Et finalement, vous découpez le son en tranches quand vous faites du numérique. Et évidemment, quand vous ralentissez un son, c'est un petit peu comme si vous agrandissiez en fait les tranches. Et quand vous ralentissez les sons en numérique, vous finissez par l'entendre. Ça dégrade complètement le son. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des essais, mais le son se dégrade. Alors, il se trouve que moi, j'ai investi dans une station numérique qui marche à très haute fréquence. Plus d'un million de fréquences par seconde, de découpage par seconde. Donc je peux renouer avec des ralentissements extrêmes. C'est ce que vous avez entendu. C'est des ralentissements de sons faits dans un cadre de piano et de gong. Et ça permet vraiment de rentrer dans des nouveaux univers graves. Et en plus, le système que j'utilise travaille à très haute fréquence. Il enregistre jusqu'à 40 kHz. Donc vous avez entendu des sons comme ça transposés dans le grave. Et puis après, j'ai fait entrer uniquement des traitements temporels. Donc le son qui avait tendance à faire des allers-retours dans l'espace, eh ben c'était un phasing mais stéréo qui bougeait dans l'espace. Il y avait un délai sur le micro, une chambre de réverbération à ressort. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce genre de choses. En fait, le son passe par les ressorts, il fait vibrer les ressorts, on recueille la vibration des ressorts et ça fait comme une réverb. C'était les réverbes qu'on utilisait dans les années 60. Une chambre d'écho à bande. Donc c'est comme un magnétophone à bande, il y a une tête d'enregistrement, mais il y a plusieurs têtes de lecture, et un synthétiseur analogique. Alors, le synthétiseur analogique passe par la chambre d'écho à bande, puis par la réverbération hors sol. Voilà, vous avez entendu un mixage entre tout ça, un mixage qui est fait en direct, hein, qui est géré en direct. Ça, c'est un dispositif qu'on utilise énormément sur la face cachée de la Lune, puisqu'on est sur un dispositif en grande partie analogique. Donc là, on vient d'explorer l'écoute au casque, qui est un système d'amplification possible, avec cette particularité qu'on a vue tout à l'heure, c'est que tout se passe à l'intérieur de votre crâne. Alors, je ne vous ai pas regardé pendant que je l'ai fait, mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu envie de fermer les yeux par moment. En général, c'est un réflexe qu'on a au bout d'un moment avec l'écoute au casque, parce que finalement, cette écoute à l'intérieur du crâne, c'est un petit peu comme si c'était vous qui étiez en train de la fabriquer, en fait. Comme ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, au bout d'un moment, le cerveau ne sait plus très bien ce qui se passe, si c'est une réalité ou si c'est quelque chose, un phénomène hallucinatoire. Et assez vite, on a tendance à fermer les yeux pour se laisser aller porter, pour aller du côté de l'hallucination, en fait. Il y a une espèce d'autoproduction du son. Vous avez remarqué qu'évidemment, il y a un caractère très intime. Un des intérêts de l'écoute au casque, c'est que ça me permet d'être sûr de ce qui rentre dans vos oreilles. Après, ce qui se passe, je ne sais pas. On en a déjà parlé, mais au moins je suis sûr de ce qui se passe à l'entrée de vos oreilles, contrairement à un système sur enceinte. On est d'accord qu'un système sur enceinte t'entend pas la même chose que la personne qui est à l'autre bout de la salle. On ne peut pas contrôler. L'intérêt de l'écoute au casque, c'est qu'au moins on est sûr du signal qui arrive dans vos casques. Et l'autre intérêt du casque, c'est qu'on va pouvoir faire un travail de stéréo très très marqué. Là, je ne l'ai pas trop marqué, mais on peut aller vers des choses très très marquées. Et le dernier intérêt, c'est qu'on s'affranchit du Larsen. Le Larsen, c'est ce qui se passe quand un micro envoie du signal vers un haut-parleur. On peut avoir une partie du signal qui retourne dans le micro, qui repart dans le haut-parleur, qui retourne dans le micro. On a ce qu'on appelle une boucle. Et ça peut générer une fréquence constante, qu'on appelle un arsène, qui est évidemment désagréable. Enfin, évidemment non, c'est pas vrai, mais qui peut être désagréable. C'est parce qu'en fait, j'ai inventé un instrument qui fait des larsènes. On peut faire des beaux larsènes. Et là, ce que ça me permet, bah, c'est de faire ce petit son avec la bille. Sur enceinte, ça ne marche pas très bien. Quoi. Pour vraiment avoir la précision du son, on a très vite un larsène. L'intérêt du casque, c'est qu'on s'affranchit du larsène et on peut rentrer vers des matières sonores très fines, comme le fait de vous faire rentrer dans ma barbe aussi. Voilà, ça, sur enceinte, ça marche beaucoup moins bien, ça ne fait pas du tout le même effet. Là, c'est comme si ma barbe était à l'intérieur de vos oreilles. Quoi. On est vraiment dans un son de proximité extrême. Donc ça, c'est un truc qu'on développe, nous, depuis 12 ans, au départ avec la Muse en circuit, qui est un centre national de création en région parisienne, à qui j'avais proposé ce système-là. Eux, ils continuent de le faire de l'autre côté, et puis maintenant, je le développe avec ma propre compagnie. On fait comme ça des concerts sous casque. Parfois en musique seule et parfois avec un comédien qui dit des textes. Voilà. Après, les limites du concert sous casque, c'est que c'est fatigant l'écoute sous casque. Les casques, c'est pas des casques de très très bonne qualité. On en a 120, on n'a pas les moyens d'avoir des très bons casques. Il y a le problème du fil, parce que je vous signale que les casques sans fil ne marchent pas bien. Les systèmes des HF sont des systèmes qui abîment le son, qui compressent le son, qui créent des artefacts en général. En général, ça passe par le numérique et ça crée des artefacts. Le seul moyen d'avoir un son correct, c'est d'avoir du filaire. Et puis, il y a des gens qui ont du mal avec l'écoute au casque. Hein. C'est vrai que c'est une écoute un peu particulière. Donc, elle est un peu limitée, malgré tout. Ce que je vous propose, c'est de vous parler de trois spectacles sur lesquels on a utilisé trois modes d'amplification différents. Donc le premier, c'est la face cachée de la Lune. Donc c'est le spectacle que certains d'entre vous verront jeudi soir. Donc la face cachée de la Lune, le propos, c'est d'interpréter une œuvre qui pour moi est une œuvre phonographique. Dark Side of the Moon, des Pink Floyd. Dark Side of the Moon, pour moi, c'est une œuvre de studio. C'est quelque chose qui a été créé, qui est paru en 1973. Je ne suis pas un fan des Pink Floyd, non, du tout. C'est pas un spectacle de fans. C'est un spectacle d'amoureux du son, ça c'est sûr. Et pourquoi j'ai eu envie de travailler sur Dark Side of the Moon? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand j'avais une douzaine d'années, mon grand frère m'a mis un casque sur les oreilles. Alors pour vous, un casque, c'est évident. Là, je vous parle de quelque chose qui s'est passé au début des années 70. Les gens n'avaient pas de casque chez eux, c'était très rare, très très rare. Alors les gens en studio en avaient, hein, mais en écoute domestique c'était très rare. Il se trouve que mon frère avait un casque. Il se trouve qu'à la maison on avait la culture du casque à cause de mon père qui avait fait son service dans les transmissions, radiotransmissions. Donc il avait des casques de radiotransmission. Donc très petit on s'amusait à jouer avec ces casques. Et donc mon grand frère a fini par acheter un très très bon casque. Et un jour il m'a fait venir dans sa chambre, il m'a mis un casque sur les oreilles. Il a posé le diamant sur un disque vinyle, 33 tours, et c'était The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Et je suis parti dans ce monde. Alors c'était un peu après 73, hein, c'était 76, et je suis vraiment parti dans ce monde, et j'ai découvert un monde dans lequel se mêle musique instrumentale, voix chantée, voix parlée, bruitage, il y a des bruitages dans Dark Side of the Moon, des sons qu'on a du mal à identifier, des sons de synthétiseur, tout un tas de choses. Bref, je suis parti dans ce monde, et c'est ce qui m'a amené vers les métiers du son, hein. C'est vraiment ça, et vers la batterie également. Donc c'est un disque qui a été marquant pour moi, c'est une expérience marquante. Donc ça, c'est une des raisons qui m'ont donné envie de faire ça. La deuxième raison, c'est qu'en faisant un petit travail de recherche sur les Pink Floyd, je me suis rendu compte que cet album, il a été enregistré entre 71 et 73. L'enregistrement s'est étalé sur 2 ans dans les studios Abbey Road à Londres. C'est-à-dire que les Pink Floyd allaient dans le studio, faisaient des prises, ils retournaient faire des concerts, ils revenaient en studio, etc., etc. Donc il y a eu plusieurs sessions. Ils avaient un jeune ingénieur du son qui s'appelait Alan Parsons et on était déjà à l'époque du magnétophone multipiste. C'est-à-dire qu'ils pouvaient enregistrer une partie. Ils étaient contents, ils rajoutaient quelque chose par-dessus, etc. Ils pouvaient faire de l'empilement sonore. Ce qui aujourd'hui paraît évident, mais ce n'était pas si évident à l'époque. Hein. Et dans les studios Abbey Road, il y avait ce synthétiseur-là, propriété du studio. Ce n'est pas les Pink Floyd qui avaient acheté le synthé. Le synthé était dans le studio. Et un autre synthé que je n'ai pas pensé à vous amener, c'est un peu bête, mais que vous verrez demain, jeudi sur scène, le Synthi AKS. Voilà, il y avait ces deux studios dans le studio. Le Synthi AKS, c'est un synthé plus compliqué que celui-là. Celui-là, vous avez vu, il est préconfiguré. Pour un synthétiseur, les gens qui aiment vraiment le synthé trouvent que c'est un peu bête, ce genre de machine-là. Moi, j'y ai pris goût parce que, voilà, de fait, je le manipulais. Mais un synthé, c'est quelque chose sur lequel, normalement, vous avez un patch. Sur le Synthi AKS, c'est carrément un système de matrice. C'est un système, donc, qui se programme d'une certaine manière. En tout cas, c'est vous qui configurez votre instrument. Ce synthétiseur-là, il appartenait au studio. Donc, les Pink Floyd, ils sont allés au hasard. Complètement au hasard. Ils ont fait des patchs. Un jour, ça a donné un truc. Il y avait un séquenceur, en plus, sur ce... Un séquenceur, c'est un système qui vous permet de rentrer des notes une par une et après de les faire jouer plus ou moins rapidement, en fait, par la machine. Bref, les Pink Floyd ont rentré comme ça tout un tas de sons faits avec les synthétiseurs. Autre élément du disque, les bruitages. Alan Parsons venait de faire une série de disques de bruitage pour la BBC. Et c'est lui qui a amené cette dimension-là au disque. Pas uniquement lui, hein, mais c'est lui qui a amené cette idée d'incorporer des sons de pendule, des tic-tac de réveil, des choses comme ça. Et donc, il y a énormément de sons comme ça dans le disque. C'est un travail de studio qui s'est fait sur 2 ans. On est encore à l'époque de l'analogique, donc il faut imaginer le mixage. Ils sont plusieurs sur la table pour faire un mixage final d'un disque. Il n'y a pas d'automation à l'époque. Hein. Rien n'est automatisé, donc tout se fait en manuel. Donc un jour, ils se disent, on fait le mixage, ils sont plusieurs autour de la table, et ils arrivent à un résultat final. S'ils le refaisaient juste après, le disque ne serait pas le même. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment une œuvre phonographique, une œuvre assez aboutie. Et le problème qu'ils ont eu, c'est qu'une fois que le disque a été terminé, quand ils sont allés en concert, il fallait qu'ils donnent à entendre, en moins en partie, ce qu'il y avait sur le disque. Et là, ils ont été confrontés à 2 problèmes. Premier problème, faire des bruitages sur scène en analogique à cette époque-là, aller capter le tic-tac d'un réveil, c'est un enfer. Je pense qu'ils n'ont même pas essayé, d'ailleurs. Donc, ils ne pouvaient pas refaire les bruitages sur scène. Et deuxième problème, les patchs des synthés, ils ne les retrouvaient pas, en fait. Comme ils les avaient changés sans arrêt pendant 2 ans, ils ne les retrouvaient pas. Donc, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire des bandes playback. Quand ils faisaient Dark Side of the Moon en concert, les parties synthés et les parties bruitages étaient faites en playback. Donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est un peu con, parce qu'ils ont gardé cette habitude-là. Tous les groupes qui reprennent Pink Floyd utilisent des bandes playback. Je me suis dit, en 2000, alors le projet il est né en 2012, enfin l'idée elle est née plutôt en 2007-2008, je me suis dit, mais aujourd'hui on pourrait. Aujourd'hui, retrouver les patchs, c'est facile. Faire capter des sons de tic-tac, faire des bruitages sur scène avec une console numérique, c'est possible. Donc, j'ai germé l'idée de faire ce projet parce que c'était finalement interpréter sur scène une œuvre phonographique qui finalement, d'une certaine manière, n'avait jamais été interprétée de A à Z sur scène. Donc, je trouvais qu'il y avait... C'est même pas une histoire de challenge, mais il y avait un intérêt à faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Et je trouvais en plus que ça avait un intérêt pédagogique, parce que j'aime cette dimension-là aussi. Je trouvais que ça permettait aux spectateurs de découvrir les techniques de studio de cette époque-là, comment les sons avaient été faits, avec quelles machines. Donc, l'idée du projet, c'est d'être à la fois très fidèle sur l'instrumentarium et sur la qualité du son de l'époque. 73, on est encore dans du son purement analogique. Donc, à la fois, on a réuni pour ce spectacle les synthés de l'époque, des chambres d'écho de l'époque. Ce n'est pas forcément exactement le modèle de traitement que les Pink Floyd ont utilisé. Les synthés, oui, hein, c'est exactement les mêmes. Les traitements, non, parce que les chambres d'écho qu'ils utilisaient, c'était des chambres d'écho à disque qui coûtent très très cher aujourd'hui et surtout qui ne sont pas fiables du tout. Donc, en tournée, c'est un enfer. Donc, nous, on a des chambres d'écho à bande. Et les chambres de réverbération, ce n'est pas forcément celle d'époque. On en a une d'époque. Ça, c'est quelque chose qui est fait par un Américain en ce moment. Le gros intérêt, c'est qu'à la fois, ça sert de chambre de réverbération, et vous avez vu, on peut jouer avec le ressort. Voilà. Ça permet de générer des sons. Or, il y a besoin d'un son d'explosion dans Dark Side of the Moon. On peut le faire avec cette machine-là. Donc, l'intérêt du spectacle, c'est ça, c'est qu'à la fois, on va utiliser les instruments de l'époque, et à la fois, grâce aux technologies d'aujourd'hui, ce type de console-là, on peut faire les bruitages en direct. Et la dernière raison, quitte à ce que ça vous paraisse louche, mais j'assume, c'est que monter un projet avec Dark Side of the Moon, j'étais sûr de remplir les salles. Mais je le dis très clairement, parce que dans le spectacle, vous allez le voir, il y a évidemment la musique de Pink Floyd, mais il y a des grandes parties où on est en improvisation, nous, sur les mêmes machines, mais on fait notre musique à nous. Vous verrez que tous les moments... Si vous connaissez l'album, vous verrez que l'intro qui s'appelle Speak to Me, qui dure 1 minute 30 sur le disque, nous, elle fait 10 minutes. On the Run, on fait durer. Enfin, voilà, on a rajouté des moments d'improvisation où on fait notre musique à nous, musique improvisée. Donc l'idée, c'était de piéger les gens avec les Pink Floyd. Enfin, les piéger, c'est pas le bon terme, parce qu'ils ont, ils entendent Pink Floyd, malgré tout. Mais l'idée, comme je vous l'ai dit, hein, un des buts de la compagnie, c'est ça. C'est de faire découvrir à un public large des musiques expérimentales. À travers ce spectacle-là, on chope un public qu'on n'a jamais, nous, d'habitude. Hein. Vous allez voir l'âge moyen de la salle. Ça tourne autour de 50, 60, jusqu'à 70 ans. Il y a des jeunes aussi. Mais voilà, l'idée, c'était aussi ça. C'était de capter le public avec Pink Floyd et de leur faire découvrir une autre musique. Et ça marche. Les retours qu'on a du public, c'est qu'ils découvrent vraiment la partie expérimentale et ils apprécient le fait d'avoir des gestes, de voir les machines. C'est quelque chose qui est plutôt apprécié dans le spectacle. Donc au final, quand on a réfléchi à l'amplification de ce spectacle, il s'est posé plusieurs problèmes. Premier problème, on a commencé les répètes en utilisant donc synthétiseur Mini Moog et Synthi AKS à deux, avec un monsieur qui s'appelait Laurent Daillot. Alors il se trouve que moi je connais très bien le Mini Moog et Laurent Daillot connaissait très bien le Synthi AKS. Donc tous les deux, on a retrouvé les sons de synthé et on a commencé à répéter sur cette console-là, donc console numérique. Vous êtes au courant, vous êtes au clair sur la différence entre l'analogique et le numérique ou pas? À peu près, vous en avez parlé déjà un peu. Ouais, vous êtes au clair. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des concerts que vous écoutez sont en numérique. La quasi-totalité de ce que vous allez écouter en concert, c'est en numérique. Sauf si vous allez dans des salles vraiment underground où ils ont du matériel, du vieux matériel. Mais sinon... Même si vous utilisez une console analogique, les systèmes de diffusion dans les salles sont numériques. Hein. Il y a un processeur numérique. Bref, on commence les répètes, on joue sur cette console-là, et à un moment avec Laurent, dont je parle au passé, parce que malheureusement, Laurent est décédé il y a bientôt 2 ans, il y a 1 an et demi. On travaille sur cette console. Et puis à un moment, on se dit avec Laurent, mais ça vaudrait peut-être le coup quand même de vérifier ce qui se passe si on prend une console analogique quand même, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Et on branche une console analogique, et là... Alors qu'on le savait, d'une certaine manière, virtuellement on le savait, mais là on se prend un choc, c'est-à-dire qu'on retrouve effectivement des sensations qu'on n'avait pas avec la console numérique. Donc première chose, on se dit, il faut que dans ce spectacle, il y ait une partie du son qui soit analogique. Tout le son analogique, on n'a pas les moyens. Ça voudrait dire avoir des systèmes de sonorisation, racheter des systèmes de sonorisation hyper puissants de cette époque-là. Et puis en plus, ça pose un autre problème, c'est que les systèmes de sonorisation des années 70, ils ne sont pas bons. Le son n'est pas très bon. Quoi. Donc, nous, on a à la fois envie d'avoir un beau son, et à la fois, il y a besoin, pour les synthés en tout cas, d'avoir une texture analogique, purement analogique. Donc l'idée, la première idée, ça a été de dire, sur scène, il va y avoir 2 grosses enceintes de studio, 2 enceintes JBL des années 70. C'était des écoutes qui étaient à l'IRCAM. On les a récupérées juste avant qu'elles partent à la poubelle. Vous verrez, elles sont sur scène, elles sont bleues, elles sont très belles. C'est des grosses écoutes assez puissantes hein, de studio. Et on les a rendues plus puissantes en isolant la partie grave. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ce qui demande le plus d'énergie, c'est le grave. Ces enceintes-là, elles ne peuvent pas descendre très très bas. Et, si, et en plus, vraiment, la partie grave bouffe toute la puissance électrique. Donc on passe par ce qu'on appelle un caisson de grave, et après on attaque les enceintes. Qui nous a permis de récupérer beaucoup de puissance dans le médium et dans l'aigu. Le grave est traité par un autre haut-parleur, grave et infragrave par un autre haut-parleur avec son système d'amplification, et donc on libère médium et aigu sur les JBL, donc elles sont assez puissantes. Et on a sur scène une console de mixage, une vieille console de mixage analogique, et Étienne, le sonorisateur du spectacle, a une console analogique et une console numérique. Ce qui fait qu'on est sûr, en tournée, que nos synthétiseurs sortent d'enceintes analogiques avec une chaîne purement analogique. On impose aux salles d'avoir un multipair tiré entre la scène, ce qui ne se fait plus. Hein. Dans les salles, maintenant, il y a des multipairs intégrés qui sont numériques. Donc on impose d'avoir un multipair analogique. Et voilà. Donc, première étape de la réflexion d'amplification, les synthétiseurs sont diffusés sur les JBL. Il peut y avoir un relais avec la SAM, mais la base du son, elle est purement analogique. Et je vous assure que c'est, vous n'avez pas du tout les mêmes sensations, quoi. Particulièrement avec le synthétiseur Minimoog, quand vous descendez dans le grave, en numérique, il y a quelque chose qui disparaît. Il y a vraiment une partie du son qui disparaît. Donc ça, ça a été le premier élément de réflexion. Et on les a sur scène, parce que nous, on est là avec nos synthés, et on veut les entendre. Nous, quand on joue, on veut absolument les entendre. Donc elles nous servent à la fois de retour. Vous verrez que les chanteurs sont juste devant. Donc, les chanteurs s'en prennent plein la tête. Mais c'est pas grave, ils ont fini par aimer. Voilà. Donc, une paire d'enceintes analogiques qui sert de base. Maintenant, en ça, il faut un autre système. Il faut un système de sonorisation. Ici. Alors, premier problème. Il y a un son qui va sortir d'ici. Il y a un son qui va sortir d'ici. C'est quoi le problème ? La phase. Comment je peux régler ce problème-là ? Je fais en sorte que le son qui arrive de cette enceinte-là, pouf, soit en phase avec le son qui arrive de cette enceinte-là. C'est-à-dire que le son sort, pouf, le son sort. C'est-à-dire que le son de cette enceinte-là sort après celui de cette enceinte-là. Je mets un délai. Le système façade est délayé. Par rapport, et donc ce qu'on appelle notre point zéro, dans ce genre de système-là, notre point zéro, c'est les JBL. Les JBL, elles ne sont pas délayées. Vous verrez que parfois, je ne sais pas si ça sera le cas, il y a des petites enceintes pour les premiers rangs. Parce que souvent, les enceintes sont un peu plus en avant dans la salle. Donc cette ligne-là, dans l'enceinte, c'est pareil, elle a un délai qui n'est pas forcément le même que celui-là. Pour pouvoir faire des délais facilement, il faut des consoles numériques. Donc la partie délai gestion de la salle, elle est faite avec la partie la console numérique. Et dernier problème, non pas dernier, on a encore un autre après. Le problème à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, vous savez qu'une enceinte, ça rayonne en fait. Le son qui sort de l'enceinte, d'une enceinte classique comme celle-là, c'est un son sphérique en fait. C'est pour ça qu'on parle de rayonnement là, d'ailleurs. D'accord ? Ce qui sort d'une enceinte classique, c'est un rayonnement. Et donc on est d'accord que plus le son va s'éloigner de l'enceinte, plus il va perdre d'énergie. On est d'accord que l'énergie du son quand il est là, c'est la même qui va devoir couvrir cette zone-là. Vous voyez ce que je veux dire ? L'énergie qui est là, à ce moment-là, qui est produite par l'enceinte, il se démultiplie dans l'espace, il occupe, il utilise. Et en fait, la même énergie qui est ici doit exciter un nombre plus grand de particules d'air quand elle arrive ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque ça rayonne. C'est-à-dire que ce qui se propage, c'est une sphère. Et même si je simplifie sur un plan, on est bien d'accord que pour que cette énergie-là, une fois qu'elle est devenue un cercle aussi grand que ça, elle a perdu en énergie, forcément. Ça, vous le sentez ? Donc ça, ça pose un problème. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir une énergie très puissante, et ici, il n'y aura pas beaucoup d'énergie. C'est ce qui se passait dans les années 70. Donc les premiers rangs avaient un son monstrueux, et les derniers rangs, ce n'était pas terrible. Donc comment on a résolu ça depuis quelques années ? On a inventé des enceintes qui se présentent en grappe. C'est probablement ce qu'on aura demain. Qui se présentent en grappe et qui sont contrôlés par un processeur. Et en fait, le fond d'onde qui sort de l'enceinte, si ici c'est devant de l'enceinte, c'est une onde plane. Une onde plane qui se propage horizontalement. Il n'y a plus de déperdition d'énergie. C'est ce que vous en avez peut-être entendu parler. En tout cas, si vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle. Alors, communément, on appelle ça le line array, ce qui est une aberration. Le vrai terme, c'est line source. Line source, c'est-à-dire que la source acoustique, c'est une ligne. Pourquoi c'est une aberration de line array ? Parce que c'est rayonnement en ligne. Rayonnement en ligne. Voilà. Mais c'est le terme communément utilisé. Là, l'avantage, c'est quel que soit l'endroit, si le système est bien réglé, Quel que soit l'endroit où vous êtes dans la salle, vous avez le même niveau. Donc sur ce spectacle, on impose nos JBL, on exige tant bien que possible un line source. Je dis tant bien que possible parce que ça coûte un peu cher à la location. Il y a des lieux qui refusent. À Bourges, ils ont accepté, je crois. Et par ailleurs, les Pink Floyd utilisaient des enceintes en salle, donc on le fait aussi par moment. Donc il y aura très certainement des enceintes également en salle sur les côtés, mais qui sont rarement utilisées. Elles ne sont utilisées, de toute façon vous allez le sentir, elles ne sont utilisées que sur nos impros, en fait, sur nos impros électroacoustiques. Dans ces moments-là, Étienne se permet de jouer avec les sons et il uniformise, il choisit le même type d'enceinte parce que lui, à la console, il va s'amuser. En fait, il va jouer avec nous. Il va balader le son en jouant sur les potentiomètres. D'accord ? C'est-à-dire que les mouvements du son, d'une enceinte à l'autre, se font par potentiomètre. Et donc, pour que le son soit cohérent, il vaut mieux avoir le même type d'enceinte. Ça va ? C'est clair ce que je dis ? Je le dis, je le précise, parce que tout à l'heure, je vais vous parler d'un autre procédé, qui est un peu inverse. Donc voilà, sonorisation de ce spectacle, une partie analogique, un line source, pour avoir une sensation de puissance équivalente dans la salle. On fait quand même de la pop en partie, donc il faut quand même une sensation de pression, une multidiffusion, et la dernière chose que vous allez ressentir par moment, le système de façade, il reste utile, aigu, médium, grave et subgrave. Étienne demande en général un deuxième système de sub-basse, hyper puissant, parce que nos synthés descendent très bas dans le grave. Ils peuvent descendre jusqu'à 10 Hz. Et la seule solution pour que vous puissiez vraiment ressentir ces fréquences-là, c'est d'avoir un maximum de puissance. Donc pareil, dans nos improvisations électroacoustiques, il monte le deuxième système de sub-basse. Et là, vous allez le sentir, normalement. Vous allez sentir, vous allez avoir des sensations physiques. Voilà. On est dans une sonorisation de concert relativement classique, avec simplement ces petits ajouts, ces petites particularités. Voilà, ça c'est pour la face cachée de la lune. Après, à la fin du spectacle, il y a un moment de rencontre avec le public où j'explique plein de trucs, donc c'est pas la peine que je vous les explique maintenant, vous les entendrez pendant le concert. Je parle des synthés, je parle des chambres de réverbération. Je crois pas que j'ai besoin de détailler plus que ça le spectacle de demain. Évidemment, si vous supportez pas les Pink Floyd, vous allez peut-être un peu souffrir, mais... je suis désolé. Alors, autre spectacle, c'est un spectacle qui s'appelle Jean Jaurès, le monde sensible. C'est un spectacle sur lequel j'ai travaillé à partir du mémoire de philosophie de Jean Jaurès. En fait, Jean Jaurès, je vous le signale parce que c'est un truc à découvrir. Il a été prof de philo avant d'être député, et à ce titre, il a dû faire un mémoire de philo qui s'appelle « De la réalité du monde sensible ». Et dans ce mémoire de philo, c'est un mémoire plutôt en lien avec la métaphysique, et il parle de son rapport à la nature, de son rapport au mouvement, à la lumière, au son et à la musique. Et il dit des choses magnifiques sur le mouvement, sur le son, sur la musique. Il dit des choses vraiment incroyables. C'est très beau. Alors, c'est un mémoire de philo. Hein, il y a des parties très chiantes, enfin que je trouve très chiantes. Et il y a des parties très belles, vraiment, très très belles. Donc, je vous invite à... Il a été republié sous le titre « Philosopher à 30 ans ». Philosopher à 30 ans chez Fayard, vous aurez ses cours de philo, on a retrouvé ses cours de philo quand il était prof, et après vous avez son mémoire. Alors son mémoire, il faut accepter hein, de tout lire pour tomber sur les petits moments de perles. Et donc voilà, j'avais envie de travailler là-dessus, j'avais envie de montrer, il y a un caractère politique malgré tout dans le spectacle, j'avais envie de montrer que l'engagement politique très concret de cet homme pouvait venir d'un rapport sensible au monde. Parce que vraiment, il parle de ça. Quoi. C'est assez étonnant. Donc, les mots ont de l'importance. Et on a un comédien sur scène. C'est pas du théâtre. Le comédien n'incarne pas Jean Jaurès. Moi, je le considère comme un musicien, simplement. Son instrument, c'est sa voix. Et il est obligé de travailler avec les mots de Jaurès. Mais dans le travail, il a beaucoup été en improvisation et on partait beaucoup de la musique. Voilà, il n'est pas dans l'imitation de Jaurès. pas du tout dans l'incarnation, mais dans la projection des mots de Jaurès. Et nous, on a créé de la musique autour de ça. Le spectre esthétique de la musique, il est hyper large. Il y a des moments où on va du côté de Debussy, il y a une variation autour d'un thème de Debussy. Du côté de la musique ancienne avec Marin Marais, on fait une variation autour des Folies d'Espagne, pour ceux qui connaissent. On va du côté de la pop, plutôt années 70. Tout ça, c'est des compos. Hein. Enfin, Folies d'Espagne, c'est pas de la compo, c'est une improvisation sur une grille. Du côté de la pop, du côté de l'électroacoustique, par exemple, le plateau est recouvert d'écorce de cacao et le comédien a des micros à ses pieds. Et donc, il y a une séquence où la base musicale, c'est le son des écorces de cacao, avec du traitement, avec tout un dispositif électroacoustique. Sur ce spectacle, j'ai ma station numérique et je travaille beaucoup sur les ralentissements extrêmes. J'ai aussi mes gants Larsen, je joue des Larsen. Et sinon, la formation, c'est piano, acoustique, orgue, synthé, tout ça une seule personne, hein, guitare électrique ou acoustique, batterie ou percussion sur des gongs, et moi c'est un peu basse et synthé et ordinateur, et grand Larsen. Sur un spectacle comme celui-là, je vais rester sur rouge, parce que sur un spectacle comme celui-là, on a le comédien qui par moment est ici, par moment est ici, par moment est ici. Je vous ai dit que j'ai fait un travail sur les relations entre système auditif et système visuel. On a une partie de notre cerveau qui capte les données qui sont cohérentes entre le visuel et l'auditif. Et donc on est beaucoup plus sensible aux phénomènes qui sont cohérents. On parle plutôt de même de consonance en psychologie cognitive. Le cerveau est beaucoup plus réceptif aux données qui sont consonantes. Or, on joue dans des grandes salles, donc le comédien en acoustique, il ne passe pas. Surtout quand nous, on commence à faire de la musique, c'est fini, on le couvre, il ne passe pas. Donc, il faut le sonoriser. Donc, il a un chef. Problème, c'est si on fait une sonorisation au sens classique du terme, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est là. Ah oui, alors il y a un truc que j'ai oublié de dire, parce qu'il y a le problème de la phase. Mais il y a un autre effet qui est important à connaître, c'est l'effet dit de précédence. C'est l'effet AAS. L'effet AAS, l'effet de précédence, dit qu'on perçoit un son, on localise un son à l'endroit d'où il nous parvient en premier. On localise un son à l'endroit d'où il nous parvient en premier. Si je mets toute une série d'enceintes dans cette pièce, que j'envoie le même son dans toutes ces enceintes-là, toi, tu vas l'entendre uniquement sur cette enceinte-là, la plus proche de toi. Toi, tu vas l'entendre uniquement là. Celui qui sera derrière l'entendra uniquement derrière lui. Les autres, c'est comme si elles n'étaient pas là. Elles amènent de la puissance, elles amènent un confort d'écoute, mais en localisation, le son, il est toujours à l'endroit d'où il nous parvient en premier. Et par ailleurs, on est sensible à la cohérence entre l'endroit où on voit la source sonore et l'endroit où on l'entend. En sonorisation classique, notamment c'est ce qui se passe souvent dans les conférences, si mon orateur il est ici, et que moi je suis ici, je le vois ici, et je l'entends ici. Vous avez déjà constaté ça, hein, en concert. Là, il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que la partie du cerveau qui guette la cohérence, elle ne la trouve pas. Et il y a une perte d'attention. Donc il faut trouver une solution qui fait que quel que soit l'endroit où je suis dans la salle, le premier son qui va arriver à mon oreille, c'est le son acoustique du comédien. Comment je peux faire? Ça va se passer en plusieurs étapes. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un délai. Délai sur la sono principale. On va retarder le son de façon tellement importante, en fait, on va faire comme si le système il était là. Donc, quel que soit l'endroit où est le comédien sur le plateau et quel que soit l'endroit où vous êtes dans la salle, vous l'entendez d'abord lui, acoustiquement. D'accord? Vous voyez le principe? Vous allez d'abord avoir le son acoustique, puis le son amplifié, grâce au délai. Le problème, c'est que si vous commencez à monter trop fort le niveau de votre enceinte, même avec le délai, au bout d'un moment, vous réentendez l'enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une marge. Vous avez en fait le niveau qui est délayé doit être au maximum de 6 dB supérieur au niveau de la source où vous localisez. Pardon, c'est un peu, ça commence à être un peu compliqué. Mais vous allez comprendre le principe. En tout cas, mettre simplement une façade et simplement un délai, ça ne suffit pas. Ça ne marche pas. Et pourtant, il doit y avoir un moyen d'y arriver. Parce que si là, ici dans cette pièce, je claquais du doigt, je faisais disparaître les murs, le plafond, le mur du fond, le sol, si on se retrouvait dans le désert, dans le sable, là, toi, tu ne m'entendrais pas. Au niveau où je parle, tu ne m'entendrais pas. L'énergie qui vous est donnée par les murs est très importante, en fait. C'est-à-dire que ce que vous entendez, c'est la somme du son direct plus de toutes les réflexions. Pourtant, vous me localisez toujours là. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le premier son qui arrive, c'est forcément le son de ma voix. Tous les autres sons, ils sont forcément délayés, puisque le trajet est plus long, systématique. Donc, si on repose sur ce principe acoustique, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de simuler ça ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une simulation d'acoustique ? Est-ce que, en plus de ces enceintes-là, je ne pourrais pas en mettre effectivement ici, à un certain niveau, et puis en mettre ici, à un certain niveau, avec un délai, évidemment. Je retarde. Je calcule le temps que mettrait la voix pour aller là et pour m'être renvoyé aux oreilles. Vous voyez comment on calcule les délais ? En gros, je fais une simulation d'acoustique de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec plein d'enceintes. Je vais en mettre là, 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 sur les côtés. Et je peux même en mettre derrière, hein, parce qu'il y a du son qui vient de derrière vous aussi. Voilà, là on est dans la simulation de l'acoustique. Et le gros intérêt de ce système-là, c'est que vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas de son dans l'image. Si vous faites bien vos réglages. Nous, à la création de ce spectacle-là, on a eu une semaine de temps de réglage. Les gens étaient persuadés que ce n'était pas sonorisé. Le HF est assez discret, on le met là. On n'a pas besoin d'un très fort niveau, on ne joue pas comme des malades. Les seuls moments où on est vraiment dans de la pop, où il y a de la batterie, il va à un micro-voix et là, on s'en fout de la localisation. En fait, on a trouvé une astuce, c'est que le moment où on joue pop, il vient à un micro qui est ici, qui est localisé, donc il est fixe, et on a mis une enceinte là, au pied du micro. Donc du coup, on garde quand même la localisation, il est fixe et on n'a plus de problème. Et pour tous les autres moments, il peut se balader. On est en simulation d'acoustique. Et vraiment, quand on a le temps de faire un bon réglage, on oublie complètement la sono. Et le gros intérêt, c'est que le son vient toujours du comédien. Et comme je vous l'ai dit, en termes d'attention au texte, parce qu'on travaille sur un texte malgré tout. Dès qu'on travaille sur un texte, il y a une dimension qui vient s'ajouter à l'esthétique, c'est la dimension du sens des mots. Et on est obligé d'être vigilant à ce que le texte soit perceptible dans les meilleures conditions. Et vraiment, le fait de localiser le son à l'endroit où est le comédien est une donnée importante. Donc soit on le fait comme on fait nous, en arrivant dans les salles, en plaçant nos enceintes, on tourne avec une partie de nos enceintes, hein, et puis on en demande une autre partie en location. Les enceintes qui sont sur le plateau sont les nôtres, en fait. Et dans la salle, elles sont jouées. Voilà, on arrive à une simulation acoustique. Je vous signale qu'il y a des salles qui intègrent ça à leur équipement. La nouvelle salle du Mans a un système de simulation d'acoustique automatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'enceintes dans la salle et il y a un micro par enceinte. Et en fait, le micro capte le son comme s'il arrivait sur le mur, en fait, et il envoie le son vers l'enceinte. Simulation, c'est-à-dire qu'en fait, ça amplifie. Ça fait comme si les réflexions dans la salle étaient plus fortes. Je ne l'ai pas entendu, hein, je ne sais pas ce que ça donne. Nous, on a joué Pink Floyd, donc on n'a pas utilisé. Simulation d'acoustique sur un spectacle comme Pink Floyd, ce n'est pas possible. On est bien d'accord que ça ne permet pas d'avoir des niveaux très puissants. Hein. C'est vraiment c'est quelque chose qui permet de rendre intelligible. Ça marche très bien sur la voix, ça marche très bien sur la musique classique, musique ancienne. Moi, j'ai découvert ce procédé-là dans les années 80. C'était très développé en Allemagne. Ça s'appelait la Delta Stéréophonie à l'époque. En France, ça a un mal fou à percer. Alors que c'est vieux, hein, c'est 80, ça fait un petit moment quand même. En France, ça reste très peu connu, alors que vraiment, ça peut être très intéressant.
Ouais.
De quel ordre de grandeur sont les délais? Enfin, je veux dire, il y a aucun endroit dans la salle où on entend vraiment les délais.
Alors, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, on est obligé de tenir compte des délais, quel que soit l'endroit où on est dans la salle. Donc, par exemple, le délai de cette enceinte-là, je suis obligé de tenir compte du fait qu'il risque d'y avoir quelqu'un ici. Donc, le délai, il est assez important, hein, pour compenser le temps. Mais du coup, celui qui est là...
C'est en quel ordre, millisecondes, dixième de seconde?
Ouais, ça, on peut arriver à des valeurs de 40 millisecondes, 50 millisecondes pour les enceintes arrière. Là, on est plutôt dans les 15, 20 millisecondes. C'est pas des valeurs énormes, hein. Mais à l'arrière, ça peut monter. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, on utilise des enceintes pas de sono, on utilise plutôt des enceintes hi-fi de petit niveau. Donc lui, il a besoin de ces réflexions-là. Et lui, il a plutôt besoin des réflexions qui sont là. Donc finalement, cette enceinte-là, elle devient quasiment imperceptible ici. On n'utilise pas de line source. On utilise des enceintes à rayonnement classique. Et plutôt des enceintes hi-fi. Hein. Nous, les enceintes qu'on a sur scène, ce sont des enceintes, c'est des monitoring de studio, en fait. C'est des A2T, on a du maquis et du A2T pour l'instant. On est en train de s'équiper en focal pour pouvoir développer ça. Ça, c'est vraiment un système de sonorisation que personnellement j'aime beaucoup. Dès qu'on est sur de la musique où il y a de la source acoustique. Alors on est bien d'accord qu'il est nécessaire que ça marche aussi pour les instruments. Pour le piano, ça marche de façon naturelle. Il y a le son acoustique. Évidemment, pour toutes les sources qui sont sur scène, on a besoin d'un haut-parleur à l'endroit où est l'instrument. La guitare, il a son ampli sur scène. Forcément, il faut qu'il y ait un point zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Le son ne peut pas venir que des haut-parleurs. Il faut forcément qu'il y ait une source. Donc moi, pour mon synthé, on est d'accord qu'un synthé, ça ne fait pas de son, ben, j'ai une enceinte pour le synthé. Forcément. Il faut forcément que le point zéro soit à l'endroit où est l'instrument. Acoustique, ça marche. Piano, ça marche. Batterie, ça marche. Pour tous les appareils électroniques, il faut qu'il y ait une enceinte qui donne la localisation de départ. Ça va ? C'est clair ? Voilà. Et troisième exemple, donc, troisième mode d'amplification, c'est celui qu'on va utiliser pour le prochain projet. Et ça, c'est très lié à un certain type de musique. Le prochain projet qu'on crée... au mois d'octobre 2015. C'est un projet autour du compositeur Pierre Henry. Autour de la messe pour le temps présent. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce. En fait, tout le monde la connaît. Vous voyez tous ce que c'est ou pas? Ouais, vous l'avez écouté. Donc ça a été créé en 67, hein. Alors pourquoi on fait la messe pour le temps présent? Parce que on va la jouer sur scène en direct, et c'est une création mondiale, ça n'a jamais été fait. Puisqu'en fait la messe pour le temps présent a été créée en 67, c'est une commande de Béjart pour un ballet, et donc il a commandé à Pierre-Henri cette musique. Pierre-Henri, pour être en lien avec la musique de cette époque-là, s'est adjoint les services de Michel Colombier. Michel Colombier a fait la partie pop, la partie instrumentale. Les musiciens ont enregistré en studio leur partie à eux. Ils ont confié les bandes à Pierre-Henri, et Pierre-Henri, par-dessus, a rajouté des sons électroniques. D'accord ? La rencontre instrument-électronique s'est faite en studio, elle ne s'est pas faite en live du tout. C'est Pierre-Henri qui finalement a placé son électronique sur les instruments, et j'ajouterais que c'est Pierre-Henri qui a fait le mix final. Or, Pierre-Henri n'est pas un ingénieur du son, si je peux me permettre. Je trouve que le mix n'est pas très bon, personnellement. Il ne faut pas lui dire. Mais je trouve que le mix n'est pas très bon. Et puis surtout, on est en 67, c'est un mixage mono. Le son est mono, totalement mono. Donc les instruments, il n'y a aucune respiration. Et j'ajoute que ça a été fait à la va-vite, puisqu'en fait, moi, j'ai eu accès aux bandes de studio, donc je peux entendre les instruments sans la partie électronique. Quand vous n'entendez que les instruments, c'est... Alors d'une part, ça n'a aucun intérêt. Je le signale, parce qu'il y a une espèce de guéguerre. Il y a des gens qui disent, ouais, sans Michel Colombier, ça n'a aucun intérêt. C'est Michel Colombier qui a tout fait. Alors moi, j'ai eu accès au son électronique seul, son instrument seul. la partie instrumentale seule, elle n'a aucun intérêt. Tout ça prend vie avec les sons de piano. Donc, c'est vraiment une symbiose entre les deux. Cette pièce, elle existe vraiment grâce aux deux. Mais depuis 67, on n'entend que cette version-là. Et des remixes qui ont été faits à partir de cette version-là. Elle n'a jamais été jouée sur scène. Donc c'est la première fois. C'est-à-dire qu'il y aura les instrumentistes sur scène. Et nous, on va faire les sons électroniques en direct. Alors, au maximum, on va réutiliser les techniques de l'époque. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à tout faire. Donc on déclenchera peut-être des sons. Mais au moins, on va les déclencher. C'est nous qui allons les placer rythmiquement dans l'espace. Enfin, dans le temps, pardon. Et en plus, on va ajouter de l'espace. Et par ailleurs, on va jouer une autre pièce de Pierre-Henri qui va s'appeler Fanfare et Arc-en-Ciel. En fait, je me rends compte que je suis en train de vous expliquer quelque chose dont vous avez peut-être déjà parlé, mais c'est pas très grave. Fanfare et Arc-en-Ciel, c'est une pièce sur support qui est en fait destinée après à être interprétée sur un. Sur un acousmonium. Voilà. Vous en avez déjà parlé un petit peu? Non, vous n'avez pas parlé encore? Donc c'est quelque chose qui est destiné à être. Alors, toi tu utilises le terme acousmonium. Le terme acousmonium, c'est le terme qui a été. Je crois que c'est Laurent Bell, non, qui l'a inventé.
François Bell.
France, pardon. Oui, je suis plus en lien avec la Cité de la musique en ce moment. Donc...
Mais l'acousmonium, c'est un terme spécifique que n'utilise pas du tout Pierre-Henri.
C'est ce que j'allais dire.
La sonorisation bien avant François.
Ah merci. Et donc, Pierre-Henri parle d'orchestre de haut-parleurs. Et je trouve que l'appellation, enfin, moi, elle me paraît plus juste. Et surtout, elle me paraît plus libre. Orchestre de haut-parleurs, alors ça correspond aussi à sa façon d'envisager la chose. Acousmonium, c'est en lien avec l'idée d'acousmatique, c'est en lien avec l'idée qu'on ne voit pas à la source. Alors, ce qui est vrai pour la plupart des modes d'utilisation de l'acousmonium, mais on peut imaginer, et ça a déjà été fait, de jouer du synthétiseur sur un orchestre de haut-parleurs. Et auquel cas, le côté acousmatique il disparaît, parce que la source, vous la voyez. Parce que l'acousmatique, l'idée, c'est de ne pas voir la source sonore, hein, c'est ça. Donc je trouve que l'idée d'orchestre, le terme orchestre de haut-parleurs me paraît. Et puis de toute façon, par principe, Pierre-Henri n'utilisera jamais le terme acousmonium. Par principe. Donc, alors c'est quoi l'idée de l'orchestre de haut-parleurs? Alors évidemment, qui a l'idée d'utiliser l'espace. Mais on pourrait considérer que pour utiliser l'espace, je peux utiliser un système, alors que moi j'appelle myriaphonique. Je ne sais plus d'où ça vient. Honnêtement, je n'ai pas retrouvé où j'avais chopé ça. Mais l'idée, c'est d'avoir plein de haut-parleurs de même type. Vous avez peut-être entendu parler de quadriphonie, d'octophonie. L'idée, c'est d'avoir plein de haut-parleurs de même type autour du public. Et puis, on va créer des mouvements dans l'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Pink Floyd, en jouant sur les potentiomètres. D'accord ? On crée des mouvements comme ça, on va passer d'une enceinte à l'autre. Et pour que la musique reste cohérente, on utilise le même type d'enceinte. Ça, c'est un mode de diffusion possible. Moi, je l'appelle le mode de procédé myriaphonique. L'idée, c'est d'avoir le même type de haut-parleurs. L'idée de l'orchestre de haut-parleurs, et c'est aussi en ça que je trouve que le terme il est assez intéressant, c'est d'utiliser des enceintes de types différents. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que non seulement on va pouvoir les placer dans l'espace, on va pouvoir effectivement environner éventuellement les spectateurs, mais pas forcément. Vous pouvez avoir un orchestre de haut-parleurs qui soit uniquement devant vous. Donc vous allez avoir ici un certain type de haut-parleurs, et puis ici vous allez avoir, je ne sais pas, une série de 4 petits HP différents, et puis à l'arrière du plateau, 4 autres types de HP. Bon, en général, on respecte la stéréophonie. Parce que en tout cas, Pierre-Henri fait toutes ses créations en stéréophonie. Donc en général, on est sur un système de diffusion symétrique. Et puis ici, il va mettre une paire de colonnes. Qu'est-ce que je fais? Un point quasiment mono au centre. Ici, une autre paire de colonnes. Voilà, plein d'enceintes de types différents. je sais pas, des toutes petites enceintes sphériques, etc., etc. Mais ces enceintes ne sont pas de même type. Alors, c'est quoi l'intérêt ? Qu'est-ce qui fait que cette enceinte-là est différente de cette enceinte-là ? À votre avis, à quel endroit se joue la différence ? Qu'est-ce qui fait que si je vous les faisais comparer, vous n'entendriez pas exactement le même son ? À quel endroit ça se situe ? Alors là, il faut introduire en fait l'idée, je vous ai parlé de la bande passante de l'oreille, maintenant on peut parler de bande passante d'une enceinte. Sachant que mon signal, de façon communément admise, il va de 20 à 20 000 Hz, la question est de savoir si cette enceinte-là reproduit les fréquences de 20 à 20 000 Hz de la même façon ou pas. Alors ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette enceinte-là, probablement qu'elle travaille de 60 Hz à, on va lui accorder 20 000. Mais à votre avis, est-ce qu'elle est linéaire ? Est-ce que toutes les fréquences sont vraiment pile poil diffusées au même niveau ? Non. Non, parce que c'est en fait, fabriquer une enceinte totalement linéaire en fréquence, ça coûte une fortune. Ça existe. Ça coûte dans les 160 000 francs l'enceinte. Donc voilà, cette enceinte-là, je ne sais pas combien elle coûte, mais elle doit coûter beaucoup moins cher. Et donc elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des. Par exemple, elle va avoir. Certainement que la courbe, elle va être plutôt comme ça. Un petit peu comme ça. Un petit accident ici, un autre accident là. Et voilà. Et puis certainement, ça doit chuter dans les nuits. D'accord ? Ça, c'est la courbe de la bande passante de cette enceinte-là. Cette enceinte-là, ça ne va pas être pareil. Ça va être. La bande passante de l'autre enceinte, ça va être. Peut-être que la pointe, elle va être moins grande. Peut-être qu'il n'y aura pas d'accident là, mais par contre, il y en aura un là. Voilà. Peut-être qu'il y aura un manque ici. Puis peut-être qu'ici, elle va monter un peu plus haut. D'accord ? Et puis, mon troisième type d'enceinte. Elle va avoir une bande passante qui va démarrer là, qui va être un peu plus linéaire, qui va monter comme ça, puis qui va chuter, etc., etc. Donc chaque enceinte va avoir une bande passante différente. Et l'autre paramètre, alors qui est un peu plus compliqué à saisir, c'est la vitesse de réactivité du haut-parleur. Si je tape avec une baguette sur une cymbale, le son que j'enregistre, c'est quelque chose qui va avoir cette tête là. Il va y avoir un temps de montée très rapide qui va être l'impact de la baguette. C'est vraiment un bruit, c'est vraiment le choc, c'est un toc, c'est quelque chose de très pointu. Et puis, après, il va vraiment y avoir le son de la cymbale qui se développe, et puis après, la cymbale qui s'atténue. Ça, là, c'est un phénomène qui est très court et très rapide. D'accord ? Déjà, au moment de l'enregistrement, vous risquez de le perdre. Si vous enregistrez avec un mauvais micro ou avec un système numérique de pas très bonne qualité, ça risque de disparaître. Ce que vous allez enregistrer, ça risque d'être ça, en fait. Ça, là, ça n'apparaît pas. Mais admettons que vous avez réussi à le capter. Après, votre enceinte, il y a certaines enceintes qui vont le développer comme ça. Et puis, il y en a d'autres, vous allez l'entendre un petit peu. Et puis, il y en a d'autres, vous n'allez carrément pas du tout l'entendre. D'accord ? Ça, c'est les deux paramètres essentiels qui font que telle ou telle enceinte... Et peut-être que sur une enceinte... Le haut-parleur de grave va être très rapide, et puis sur une autre, ça va être le haut-parleur de médium qui va être très rapide, et puis sur l'autre, ça va être les aigus. Au final, si je règle le niveau de toutes mes enceintes de façon équilibrée, c'est-à-dire que je vais me mettre au centre de la salle, je vais envoyer du bruit blanc à niveau constant sur mes différents postes, sur mes différents instruments. Alors pourquoi il parle d'orchestre de haut-parleur ? Parce que pour lui, ce sont des interprètes. chaque type d'enceinte est un interprète qui a ses caractéristiques. Voilà. Et donc, la personne qui règle l'orchestre de haut-parleur fait en sorte que le niveau soit équilibré pour toutes les enceintes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, sur la console, il fait en sorte que si mon fader... Alors, on est bien d'accord que la console, elle fonctionne à l'inverse de d'habitude. Je rentre un signal stéréo, et ce signal stéréo, il faut qu'il soit envoyé ici, et puis avec deux autres faders ici, avec deux autres faders ici, deux autres faders ici, etc. C'est-à-dire que là où la console habituellement, c'est un mélange de sources vers une paire d'enceintes, ça devient l'inverse. C'est une source stéréo qui va être comme démultipliée sur les consoles. D'ailleurs, à l'époque, en analogique, c'est ce qu'on faisait. On démultipliait les connexions. Et chaque tirette va correspondre à un groupe d'enceintes, à un type d'enceinte. Et donc, celui qui règle l'orchestre de haut-parleur fait en sorte que si cette tirette-là est à ce niveau-là et si celle-là est à ce niveau-là, j'ai le même niveau qui sort des enceintes. Vous voyez ? Donc, on agit sur les amplis ou sur des paramètres internes à la console. C'est clair ? Donc ça, une fois que ce réglage-là est fait, si je diffuse un signal stéréo, une musique électroacoustique avec tous les faders montés au même niveau, vous allez voir que le son va vivre dans l'espace de façon incroyable, si le système est bien réglé. Mais vraiment, de façon naturelle, c'est-à-dire que même sans jouer sur la console, le son se balade. À un moment dans le son, il y a un son hyper aigu qui va être très bien mis en valeur par cette enceinte-là, pendant qu'il y a un médium qui va être mis en valeur par celle-là, pendant qu'il y a du grave qui va être mis en valeur par celle-là. Et c'est particulièrement probant avec la musique électroacoustique qui joue beaucoup avec les timbres. Finalement, le travail de timbre que fait le compositeur en studio, en général il ne travaille que sur deux enceintes, tout son travail de timbre devient un travail qui se démultiplie dans l'espace en fait. Les changements de timbre vont créer des mouvements dans l'espace. Je vous invite vraiment à vivre cette expérience-là au moins une fois dans votre vie. Vraiment. Un bel acousmonium, et personnellement, je trouve que c'est Pierre-Henri qui est le maître vraiment dans ce sujet-là. Le travail que fait le GRM était exceptionnel à une époque, et à mon sens, il s'est un peu cassé la gueule. C'est mon avis. Il y a une autre structure qui s'appelle Motus, et eux, c'est un peu l'inverse. Ça commence à progresser, mais je trouve que ça part de bas. Même s'il y a des interprètes intéressants chez Motus. Mais voilà, je trouve que l'acousmonium, il n'est pas très maîtrisé. Vraiment, pour moi, le maître de l'orchestre de haut-parleurs, c'est Pierre-Henri, associé à Étienne Gultinger, son ingénieur du son, qui est l'ingénieur du son de la face cachée de la Lune, qui était mon professeur, en fait, il y a 30 ans. Voilà, l'orchestre de haut-parleurs. Donc là, évidemment, on est dans un système de diffusion du son qui est un peu exceptionnel, mais qui est vraiment à découvrir. Et surtout qui vous montre qu'il ne faut pas systématiquement chercher la cohérence des enceintes quand on veut travailler en multidiffusion dans l'espace. Et par exemple, moi c'est mon rêve, je n'ai jamais pu le faire, mais je sais que Laurent Daillot l'a fait. Imaginez un synthétiseur analogique, brut, analogique, câblé sur un acousmonium. Imaginez ce que vous pouvez faire. À mon avis, c'est colossal. C'est-à-dire que votre instrument qui est un tout petit truc, ça devient un truc d'une largeur incroyable. Laurent Daillot, il l'avait fait avec un synthétiseur Serge, un modulaire qui s'était fait faire sur mesure. Moi, je n'étais pas là le jour où il l'a fait, mais il paraît que c'était étonnant. Voilà, vous avez compris le principe de l'orchestre de haut-parleur, ou acousmonium, selon les. Mais on est d'accord que pour que ce système-là marche, quand vous le mettez en place, vous êtes obligé de réfléchir au placement de chaque haut-parleur par rapport à la salle. Il n'y a pas un placement fixe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut réfléchir en fonction de la salle, essayer, changer le placement, c'est long, quoi. Et c'est là où je trouve que le GRM est un peu perdu, c'est qu'ils travaillent sur plan, ils posent leurs enceintes et c'est fini, quoi. Voilà. Alors que Pierre-Henri, il fait chier. Il fait chier le monde. Alors moi, j'ai un peu remplacé Étienne par moment, ça peut être très pénible. Quand vous demandez à des techniciens de mettre une enceinte là, puis de la mettre là, puis de la mettre là, puis de la remettre là, puis de la mettre là, enfin, c'est... Au bout d'un moment, ils en ont un peu marre. Ah ben oui, t'as vécu.
J'étais en train de rire parce qu'on avait organisé un concert Pierre-Henri sur le parvis de la cathédrale de Bourges. Il avait chié les techniciens d'entrer par des escaliers étroits qu'on avait au haut-parleurs sur le toit de la cathédrale. des trucs de 50 ans.
Non, il peut être très chiant. De toute façon, c'est quelqu'un qui peut être très chiant, mais encore une fois, moi, c'est un maître, c'est un monsieur. Alors moi, quand j'ai travaillé avec lui, il avait déjà 70 ans. Et je vous garantis, quand on installe un orchestre de haut-parleurs avec Pierre-Henri, au minimum, il y a 60 à 70 haut-parleurs. Il est allé jusqu'à 140 pour un concert à Radio France. Donc vous imaginez le nombre de trucs que vous câblez. Il arrive, il fait ses essais, vous avez réglé avant, et je vous assure qu'il est capable de vous dire... Cette enceinte-là, elle a un problème. Vous avez fait les réglages et tout, vous n'avez rien entendu. Lui, il diffuse sa musique, il dit « Cette enceinte-là, elle a un problème, vous allez vérifier. L'enceinte, elle a un problème. » Donc c'est un mec qui a développé vraiment un savoir-faire, une connaissance, une maîtrise de son orchestre de haut-parleurs. Et évidemment, il a son orchestre de haut-parleurs. C'est-à-dire qu'il a un local à Paris avec, je ne sais pas combien il en est, il a une centaine d'enceintes.
Cabas.
Beaucoup du Cabas, ouais.
You may have said this, but are there any acousmoniums set up in France still as permanent places?
Est-ce qu'il y a d'autres acousmoniums? J'ai pas compris en fait. Oui. Alors il y a Motus. Motus.
Okay, yes.
Motus.
Mais excusez-moi, mais tout ça c'est de la guerre d'égocentrisme. Il y a eu le même affaire d'un bourgeois que.
Alors ça, je le connais.
À Piquet, qui avait un vrai système spécifique. Qu'on peut critiquer, où il y avait de l'analyse par filtre extrême grave, 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 etc. Et il y avait une resynthèse acoustique qui se faisait comme ça. Belle, par le fait que Boulez est revenu, qu'il a piqué le terme d'électroacoustique, il a inventé le terme d'acousmatique pour se distinguer de Birkheim. Mais il n'y a aucune spécificité, c'est un orchestre de haut-parleurs.
Ah oui, on est d'accord.
Il n'y a aucune spécificité de l'acousmonium que tout le monde a repris.
Je suis absolument d'accord. Le seul truc, le seul endroit où je vois des différences.
Avant une solo, c'est devenu un terme acousmonium que tout le monde a repris.
Tout à fait. Non, mais ça
n'a aucune identité particulière.
Je suis d'accord. Là où moi j'entends des différences, c'est sur la façon de l'utiliser. Hein, c'est tout.
Oui.
C'est tout. Alors je vous ai dit que l'idée, c'est qu'une fois que c'est bien réglé, si vous ne touchez pas les potards, ça vit dans l'espace. Mais évidemment qu'au moment de l'interprétation de la pièce en concert, vous allez jouer sur les potentiomètres. Hein, vous pouvez décider qu'à un moment, ça va être serré, qu'à un moment, ça va être... Il faut plutôt entendre tel ou tel type d'enceinte par rapport à tel passage, qu'à un moment vous avez envie que ça s'élargisse dans le public, donc vous allez pouvoir interpréter la pièce. Mais on reconnaît qu'un acousmonium, enfin c'est mon avis, on reconnaît qu'un acousmonium est bien réglé en mettant tous les faders au même niveau et déjà ça bouge dans l'espace. Déjà vous êtes capable d'entendre sur la pièce tous les haut-parleurs à un moment donné. Quoi.
Mais je pense qu'il y a raison de parler de l'écoute de Pierre-Henri en particulier, parce que ce qu'il fait, c'est pas un système de haut-parleurs en soi, d'amplification. C'est le rapport entre la sonorité et l'acoustique du lieu où il travaille,
c'est ça.
Et la manière de jouer et de diffuser.
C'est ça.
Où il y a aussi des dynamiques.
Alors voilà. Alors c'est dans le mode de jeu.
C'est ça qui fait ça.
Tout à fait. C'est la façon de l'utiliser. Oui. Mais avant de l'utiliser, c'est effectivement le placement dans la salle. Oui. C'est le fait d'être en lien. Le rapport à l'acoustique de la salle. Il va assez loin. Et puis par ailleurs, pour en avoir un peu discuté avec lui, et moi ce que je sens chez Motus et un peu dans la nouvelle génération du GRM, c'est des mouvements assez marqués en fait, un jeu sur les faders très marqué. Voilà. La volonté d'être d'être un petit peu... Alors, moi je parle de mystification, mais je parle de ça parce que ça existe aussi chez les ingénieurs du son. L'idée que pour que vous soyez reconnu dans ce que vous faites, il faut bouger. Voilà. Il faut bouger, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà. Alors qu'en fait, ça peut être...
qui fait un cours sur un lien de bouger les fesses pendant qu'on diffuse.
Je m'étais promis de ne pas citer Jonathan Pragé.
Ben moi, je le cite parce que je pense qu'il faut écouter plutôt qu'on voulait...
Jonathan Pragé, il a un mérite, c'est que c'est un des rares qui a théorisé un peu le travail sur l'acousmonium. Après, je suis d'accord avec toi, moi je supporte pas sa façon d'interpréter. Voilà, il fait partie des gens qui ont envie de valoriser ce travail-là et qui croient que la valorisation du travail, c'est par le geste plutôt que par le résultat. Quoi, parce que... Et vraiment, je vous garantis qu'en fait, je sais pas comment toi tu le vis, mais finalement, moi, la sensation que j'ai, c'est que plutôt que de travailler en montée des faders, on travaille plutôt en baisse de faders. C'est-à-dire qu'il y a l'acousmonium qui vit de façon naturelle, et puis il y a des moments où vous n'avez pas envie que certaines parties vivent, et vous les baissez, et puis après vous les ramenez. Voilà. Pour moi, on travaille plus par soustraction, en fait, que par addition. Voilà. Je pense qu'on est plus dans le vrai dans ces cas-là, mais après, bon, chacun ses façons de faire. En tout cas, Pierre-Henri a plutôt tendance à travailler par soustraction. Bon, après, maintenant, Pierre-Henri, il a un peu vieilli, et de temps en temps, il fait un peu son Jonathan Pragé aussi. Ça lui arrive aussi. C'est un peu... mais c'est vraiment un truc à connaître. C'est vraiment un truc qui est... C'est aussi pas mal développé en Belgique. Hein. J'ai l'impression qu'en Belgique, il y a tout...
La musique et recherche.
Ouais, voilà. La musique
et recherche. Qui est venu l'an dernier ici.
D'accord.
Donc... Il y a une école à Birmingham aussi. À l'université de Birmingham.
Ah oui,
il y a le système BIST qui est développé en Bretagne.
Que je connais pas.
D'accord. Par Gentil Harrison.
Donc, nous, dans le spectacle Concert pour le temps présent, en fait, il y aura trois parties. Il y aura une première partie où on va diffuser une pièce de Pierre-Henri sur orchestre de haut-parleur. Elle sera interprétée par Étienne. Donc Étienne sera en salle avec sa console, au milieu de la salle. On va diffuser donc la pièce. Dernière partie, le concert pour le temps présent, où mélangé au haut-parleur, il y aura des musiciens, donc batterie, guitare électrique, orgue, basse, cloche tubulaire, flûte, trombone. Alors il y aura, en fait, il n'y a que quatre instrumentistes, hein, pour des raisons financières, puis surtout du trombone, je crois qu'il fait trois notes, le trombone, la flûte elle doit en faire cinq, donc on n'a pas pris des instrumentistes spécifiques, le trombone il sera fait par le sonorisateur retour, la flûte sera faite par Cécile qui par ailleurs fera du piano, enfin bref, voilà. On a trouvé des arrangements comme ça. Donc la messe pour le temps présent, on va en partie utiliser une sono façade classique, mais un peu les haut-parleurs aussi pour les sons électroniques, de façon à ce que cette pièce vive enfin dans l'espace, qu'on quitte cette monophonie pour la faire vivre un peu dans l'espace. Et entre les deux, il y aura une création que je vais faire moi, où on va beaucoup utiliser l'orchestre de haut-parleurs, et on espère même pouvoir avoir des haut-parleurs mobiles. Ça, c'est un des projets, c'est d'avoir des déplacements de son qui sont vraiment par le déplacement des haut-parleurs. Ça a déjà été fait, hein, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Mon rêve, ce serait que carrément ça puisse passer au-dessus des spectateurs. Sachant que dès que vous êtes au-dessus des spectateurs, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Et ça sera une pièce qui va mêler électroacoustique des années 60 et numérique pointu avec la station dont j'ai déjà parlé, qui travaille à des très hautes fréquences. Et on va reconstituer à cette occasion le spatialisateur du GRM. Le spatialisateur, c'était un instrument unique, une pièce unique. C'était, alors je ne sais pas comment ça marchait, personne ne sait, parce que son inventeur est décédé il y a quelques mois. Ça se présentait sous forme de quatre arceaux en bois. Il y en avait un devant l'opérateur, deux sur les côtés et un derrière. L'opérateur avait un boîtier et il déplaçait son boîtier à l'intérieur de ces arceaux et ça déplaçait le son dans l'espace. Ça, c'est la seule chose dont on soit sûr. Pour le reste, l'instrument il a disparu, les plans ont disparu. Et son inventeur a disparu. Donc voilà.
C'est pas Coupigny, c'est...
Non, c'était pas Coupigny, c'était l'autre.
J'ai des photos de ça. Enfin, tu les as.
Ah oui, oui, je les ai. Donc on va le refabriquer. C'est-à-dire que visuellement, on va essayer. Je vais demander à un plasticien de travailler à partir des photos pour que visuellement ce soit le même. Et évidemment, on va utiliser un mélange d'électronique de l'époque. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça pilote aussi des logiciels d'aujourd'hui. Que ce soit un instrument d'aujourd'hui également. Voilà. Sur ma pièce, il y aura un opérateur qui utilisera le spatialisateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on le verra de dos, manipulé, et je pense que ça peut être intéressant de voir quelqu'un qui a un mouvement vers la droite et de sentir le son qui se déplace vers la droite. Ce qui m'intéresse, c'est le geste. Hein. C'est évidemment le geste instrumental. Et aussi, dans la reproduction des sons électroniques de Pierre-Henri, on est en réflexion pour qu'on voit le geste aussi. Soit le geste de l'époque qui était tout simplement... Pierre-Henri a fait beaucoup de concerts où il était avec des magnétophones et il déclenchait ses sons sur des magnétophones, tout simplement. Donc au minimum, c'est ça. Et voir utiliser des instruments d'aujourd'hui. Une des hypothèses serait d'utiliser le Carlax, vous en avez peut-être déjà parlé, qui est un instrument de cordes. Vous en avez un?
Non.
Non, non, le prof qu'il a inventé est au conservatoire, il m'a montré.
D'accord. Parce que ce qui m'intéresse, par exemple, dans, le, dans la messe pour le temps présent, les, la plupart des sons, d'après Pierre-Henri, ont été faits en larcène électronique. C'est-à-dire qu'il sortait de sa console et il re-rentrait dans une entrée et il créait un bouclage électronique. Qui ensuite passait par un magnéto qui faisait de l'écho. Ça, c'est une des grosses caractéristiques de, des sons de la messe pour le temps présent, c'est que la plupart des sons passent par un écho et le temps de l'écho correspond à l'espace entre la tête d'enregistrement et de lecture. Ça, c'est une... C'est vraiment une donnée de base. Mais il semble qu'il y ait beaucoup de larcène. Et comme on n'a plus la console de Pierre-Henri, je ne sais pas, par exemple, ces sons-là, si on va réussir à les refaire. Or, on sent qu'il y a des modulations. Je pense même qu'il y a des sons de larcène qu'il a ralenti au magnéto et d'autres qu'il a accéléré. Et donc, il y a des moments où on sent que c'est le même son, mais qu'il y a une modulation, qu'il y a un pitch. Et ce qui m'intéresserait dans le Carlac, c'est qu'on sente que c'est le même son et qu'on voit la modulation se faire. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse... c'est qu'on développe pour ce spectacle-là un moyen de créer un lien entre l'instrumentiste et le son qu'on entend. On voit vraiment les modulations de son se faire.
Et tu vas le rencontrer
pour, des dimensions, pour une dimension spectaculaire.
À l'exposition, ouais. Il sera présent. Demain. Parce que c'est... Je pense que l'ingénieur qui a inventé le système, il s'appelle Poulain.
Ah d'accord. Oui, Poulain, c'est ça.
Oui,
c'est ça.
Qui travaillait avec Schaeffer au début. Et donc, les soucis de spatialisation de Pierre-Henri datent des années 50.
Oui.
Tu t'en mets plein le disque. Ouais. Donc c'est une histoire.
Oui, parce que enfin, tout ça, tu l'as déjà dit. Le premier concert, la symphonie pour un homme seul, ce n'était pas des magnétos, c'était des disques. Hein, c'était des disques souples. Qu'il a encore, hein, Pierre. Il les a chez lui, en fait, les disques souples. Ben voilà. Il me semble que j'ai fini. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Vous venez tous ou pas jeudi? Si jamais après le spectacle vous avez envie de monter sur le plateau, vous restez. Une fois que tout le monde sera parti, on peut vous faire assez rapidement monter sur... Ah non, mais surtout qu'on démonte pas. On démonte pas puisqu'on joue le lendemain. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà, une fois que tout le monde est parti, on prend un moment, vous montez sur le plateau, vous verrez le dispositif. Il y a pas mal de trucs à dire sur le dispositif, donc ça vaut le coup. Vous verrez les chambres d'écho avant. En plus, elles sont ouvertes sur scène.
Dans le spectacle, il n'y a aucun aspect visuel. Étant donné que les machines ont de l'importance quand même,
alors,
ce que tu as expliqué, est-ce qu'on voit ou...
Oui, il y a deux choses qui font qu'il y a quand même une dimension spectaculaire. Déjà, certains bruitages, on les voit. Vous savez, dans Monet, il y a une caisse enregistreuse. Bon, bah, sur scène, il y a une caisse enregistreuse. Je joue de la caisse enregistreuse. Il y a un moment où on entend quelqu'un qui court. Bah, je donne de ma personne. Je cours. Il y a les pendules, les réveils. Il y a quelques astuces, vous verrez, pour les pendules. Et puis, l'autre petit truc qui marche plus ou moins bien selon les salles, mais moi, je trouve ça quand même intéressant, c'est qu'on a des toutes petites caméras, en fait. Donc, par exemple, cet appareil-là, on voit... c'est pas un écran géant, parce que j'aime pas les écrans géants. C'est deux postes de télé qui rentrent dans la scéno du spectacle. Mais on voit, on a quand même un focus fait sur chambre d'écho, réverb, sur les synthés. Ouais.
Voilà, et comment vous avez reconstitué tout ça? À l'écoute, simplement, ouais. Avec des archives, ouais.
Pendant un an, Laurent et moi, on a écouté l'album au moins une fois par mois. Donc on a fait un relevé, alors pas des notes et tout ça, hein, ça c'est les instrumentistes qui l'ont fait eux-mêmes. Donc un gros relevé, écoute, et puis des interviews pro de Alan Parsons. Donc moi j'ai eu accès à des journaux pro à différentes époques où ils parlent de... Et puis il y a eu un live qui a été fait à Pompéi des Pink Floyd, et en fait dans les bonus du film, il y a plein d'images de studio au moment où ils enregistraient avec ça. Donc tu vois plein de trucs en fait. Tu les vois faire plein de trucs. Et donc, au final, on a réussi à avoir toutes les infos. Et il y a un morceau qui s'appelle On the Run, qui est le troisième morceau, qui est fait essentiellement avec le synthé AKS. C'est une boucle, en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Pink Floyd n'avaient pas retrouvé le patch. Hein. Et en fait, celui qui a retrouvé le patch, c'est l'inventeur du synthé AKS.
Zinoviev.
Voilà, c'est Zinoviev. qu'il l'a retrouvé et qu'il l'a refilé au Pink Floyd pour le DVD d'ailleurs, quand ils ont fait le DVD. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans le DVD, les 8 notes qui rentrent ne sont pas les 8 notes de l'album, ils se plantent dans la boucle. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, quand on écoute l'album sur On the Run, moi j'étais persuadé que la partie rythmique était faite avec le Charleston en fait. Hein, c'est une boucle sur 8 notes. Et en fait, c'est le synthé AKS qui l'a fait. C'est le synthé AKS. On s'en est rendu compte en faisant le patch et en écoutant le résultat. Donc il y a des découvertes comme ça qui sont faites un peu par hasard. Mais sinon, il y a un son de synthé qu'on n'a pas réussi à faire. Et en plus, il est compliqué parce qu'il se balade en stéréo. Donc nous, on n'a pas réussi avec le Moog et avec le synthé AKS. Mais il se trouve que sur le spectacle, on a un North Stage. Le North Stage, c'est un clavier qui permet... Nous, on l'a choisi le North Stage parce qu'il permet à Cécile de doubler des parties orgue. C'est un clavier qui permet d'imiter l'orgamonde, parce qu'il y a un orgamonde. Et ou le piano électrique Wurlitzer. Et il y a des moments où il y a deux Wurlitzer ou deux orgues. Donc on avait besoin d'un instrument qui permette de faire ces deuxièmes parties. Et il y a une partie synthé numérique qui est excellente. Et en fait, Cécile a retrouvé le son, a réussi à le refaire sur le North Stage. Donc ce son-là, vous verrez, c'est un des seuls sons autour du bruit blanc qui se balade énormément dans la stéréo. Et elle peut le piloter elle-même puisque c'est un synthé numérique stéréo. On a un synthé numérique sur scène, qui est le North Stage. On n'est pas des puristes de l'analogie.
C'est le clavier.
C'est le Norgil, oui, c'est ça. Vous verrez l'orgamone avec la cabine Leslie, mais on verra ça sur le moment. Bon, enfin, de toute façon, c'est bien que vous découvriez un peu le spectacle et qu'on en parle après. Et en plus, les musiciens seront là. Je ne sais pas s'il y a des instrumentistes parmi vous. Vous pouvez brancher Eric Lorer, qui est vraiment un guitariste assez incroyable. Bon, enfin voilà, on verra ça après le concert. Ça arrête là ?
Merci.
Merci pour votre écoute.
Merci.